Tous les matins, je me lève.
L'émission des travailleurs de l'ESAT de Belmont-sur-Anse.
Avec Roselyne, Stéphane,
Frédéric et Joan.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur les ondes de Radio Saint-Afrique.
C'est Roselyne, Joan et Stéphane au micro.
Au sommaire aujourd'hui, reportage à Saint-Afrique avec une pièce de théâtre sur les droits des femmes.
La chronique de Roselyne avec le sujet du jour, la gastronomie aveyronnaise.
Et puis enfin, la suite de la fiction de Joan.
Les Boudeuses. Avez-vous déjà entendu parler de cette compagnie de théâtre ?
En novembre dernier, à Saint-Afrique, elles ont présenté un spectacle des contes du quotidien et autres chroniques féminines.
On est allé poser quelques questions à Maëlle et Claire Pomme, deux membres de la compagnie.
Levons nos culottes, amis, ne fais pas ta chochotte. On ne chuchote point, nous ne parle-t-on guère. Voici venu le temps de la révolte, mon frère.
Bravo la compagnie Les Boudeuses, on peut les applaudir bien fort. Bravo.
Pourquoi avoir choisi comme nom de scène Les Boudeuses ?
Alors, on a choisi de s'appeler la compagnie Les Boudeuses parce qu'on est plusieurs dans la compagnie à venir d'une même famille. Et cette famille, elle s'appelle la famille Boude. On s'est dit qu'on pourrait s'appeler Les Boudeuses.
Depuis quand vous produisez-vous ?
Alors, nous, on a créé notre premier spectacle qui s'appelle Des Boudeux. Des, plus loin, Boue, des apostrophe, E, E-U-X. Et c'était en 2012. Et depuis, on en a créé un autre qui s'appelle La Criée de Rue Verte. Et puis, on est arrivé à Des Contes du quotidien et autres chroniques féminines. Et donc, ça fait depuis 2012 qu'on boude par Mons et par Vaux et qu'on ne s'arrête pas de bouder et qu'on essaye d'aller dans toute la France.
Pour arriver au bout de...
au bout de quelque chose de grand.
Vous faites intervenir le public dans vos spectacles. Pourquoi ?
Premièrement, parce que ça nous plaît, je pense. Deuxièmement, parce que pour appuyer notre propos, souvent, il est intéressant de faire intervenir les gens. Parce que on ne les place pas forcément dans une position passive, où ils attendent quelque chose, mais on les rend actifs d'une action qui est en train de se dérouler. À chaque fois, ça permet aux spectateurs de devenir un peu spectateurs.
Si on a choisi le théâtre de rue, c'est justement parce qu'on est en prise directe avec le public. On est, par exemple, dans la rue, dans un square, quelque part, un endroit où les gens peuvent passer et s'arrêter et nous regarder et nous écouter. Et du coup, c'est vraiment pour l'échange et cette envie d'aller vers les gens, d'être sur l'espace public. Et donc, le fait de faire participer les gens, ça va aussi dans cette démarche-là. On a envie d'un moment d'échange où on est ensemble et ça nous amuse, c'est très amusant.
De faire partager.
Ouais, de faire partager les gens, comme dit Maëva, tout à fait, de faire partager la réflexion, l'écriture. Et en fait, c'est hyper amusant parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer quand les gens y participent. Et ça, c'est hyper kiffant, si je peux me permettre d'utiliser ce petit mot. Quand on est comédien... d'avoir l'imprévu. Et c'est magique, en fait.
Ce qu'il y a de bien, c'est que ça donne aussi une liberté au spectateur. Ça lui permet de pouvoir prendre la parole, que ce soit par une annonce qu'il écrit, ou dans des contes du quotidien, ça lui permet de se positionner aussi en tant que citoyen et en tant que personne. Et comme on est dans un spectacle, on se sent pas gêné de participer parce que c'est plus vraiment nous, c'est quelqu'un d'autre qui vient admirer quelque chose. Regardez, donc on peut se permettre de participer. Est-ce que je peux citer William Shakespeare ?
Allez-y.
Il a dit « All the world's a stage ». Le monde est un théâtre.
Touchez-vous un public mixte, majoritairement féminin.
Alors, nous, on espère toucher un public mixte. C'est ce qu'on espère le plus possible. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que quand on fait un spectacle sur la femme, sur l'univers féminin, c'est pour les femmes. Alors que c'est pas vrai. On a tendance à réduire une thématique à un sexe. Par exemple, si je fais un spectacle sur les voitures, je vais dire c'est pour les garçons. Or, c'est pas vrai. Il y a autant de filles qui peuvent s'intéresser aux voitures.
Ben,
je pense que le théâtre et l'art de rue et la peinture et tous les arts, finalement, puis même tout dans la vie, c'est pas parce que c'est une thématique qui va, dans un cliché, toucher plus les filles ou plus les garçons, que c'est pour les filles ou pour les garçons. Et nous, on fait un travail qui est pour les deux sexes, parce qu'avant tout, on joue pour les êtres humains. Et qu'ils soient hommes ou femmes, c'est pas là notre grande question. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos messages soient entendus autant par les hommes que par les femmes. Parce que les choses, elles avanceront avec les hommes, mais aussi avec les femmes.
Comment les hommes réagissent-ils ?
Dans les retours qu'on a eus, en tout cas, les hommes sont contents d'avoir participé au spectacle parce qu'on leur tape pas dessus. C'est un spectacle sur l'univers féminin qui se revendique féministe. Le féminisme, c'est vouloir, virgule, œuvrer pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et nous, on fait un spectacle sur l'univers féminin qui revendique que les femmes ont autant le droit que les hommes d'exister, d'avoir des droits sociaux similaires aux hommes, d'avoir plein de choses qu'ont les hommes et qu'on arrête de les catégoriser. Qu'on arrête de mettre les femmes dans une case, qu'on arrête de dire non, ne porte pas ça, c'est trop lourd pour une femme.
Et les hommes dans une autre.
Et qu'on arrête de dire non, tu peux pas être esthéticienne parce que c'est un travail de femme. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait transporter dans ce spectacle. Dire que chacun a le droit de faire ce qu'il veut, qu'il soit un homme ou une femme. Il a le droit de penser, de s'exprimer, de faire le métier qu'il souhaite. Tout ça. Tout ce qu'il a envie, que ce soit un homme ou une femme. Ça, c'est ce qu'on veut vraiment défendre dans ce spectacle. Dire qu'avant tout, on est des êtres humains et qu'on partage la planète et que le peu de temps qu'on reste dessus, on a intérêt à partager les choses et pas faire de différence entre les femmes et les hommes.
Et les femmes.
Et les femmes.
Qu'est-ce qu'elles en pensent,
oui. Elles sont contentes parce que c'est vrai que les textes que vous allez entendre ce soir, c'est des monologues de femmes. Donc du coup, c'est des textes qui peut-être vont toucher des femmes. Des femmes vont se dire « Tiens, ça me ressemble » ou « Tiens, tiens ça c'est un peu moi » ou « Tiens, ça c'est un peu quelqu'un que je connais ». Et que finalement, si on n'y mettait pas une voix de femme dessus, un homme pourrait dire « Tiens, c'est un peu moi aussi ».
Certains sont touchés, reboostés, énergisés. Parce que bon, quand même, dans ce spectacle, il y a beaucoup d'optimisme. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de dérision, donc...
Et du coup, les hommes, ils se mettent un peu à la place des femmes.
Et justement, on s'est amusé à chambouler un petit peu les identités féminines et masculines. Oui, ça peut faire poser des questions, se mettre à la place d'eux. Parce que le théâtre, ça sert aussi à ça, je pense. À vivre une expérience, à vivre quelque chose qu'on ne vit pas d'habitude et à sublimer ce qu'il est possible de vivre, à ouvrir des champs de possibles.
Mais c'est aussi l'occasion de partager un moment avec plusieurs personnes. On va être vraiment 50 ensemble dans un tout petit espace. Et puis, Et puis on va partager tous ensemble quelque chose de fort, mais surtout, on l'espère, un grand moment de partage et d'échange.
Les cuisseaux dans les nylons pour que monsieur à gros tâtons, remontant la montagne du plaisir, le nez sur une dentelle plastifiée, atteignant le pic du désir.
C'est à vous de mener la danse, pas trop non plus, il serait en transe. Prenez balaise et serpillière, astiquez le sol sans un bémol.
Les cuisseaux dans les nylons pour que monsieur à gros tâtons, remontant la montagne du plaisir, le nez sur une dentelle plastifiée, atteigne un pic du désir.
Ouais, il faut vite redescendre à la montagne. C'est bien ce que je me disais.
Merci à la compagnie Les Boudeuses.
Reportage réalisé par Joanne et Stéphane en novembre dernier à Sainte-Afrique.
Si cela vous a plu, rendez-vous sur le site de la compagnie cielesboudeuses.com.
Attention, dans quelques instants, c'est l'heure de la chronique de Roseline.
Elle nous parle de la gastronomie aveyronnaise.
La gastronomie aveyronnaise. Dans le nord du département, on trouve l'aligot, une spécialité aveyronnaise qui se fait avec des pommes de terre, de la tomme fraîche et de l'ail. Vous trouverez surtout ce plat sur l'Aubrac où nous allions souvent, ma famille et moi, manger un aligot. Dans un des nombreux burons qui fournissaient ce mets incontournable du Nord Aveyron. Et le fromage de la guiole qu'il fabriquait sur place. Oh, puis le reste du repas, il fallait le porter. Le laguiole, on le trouve dans le village qui porte le même nom et il ne faut surtout pas le confondre avec le Cantal qui ressemble beaucoup à ce fromage. Je le sais pour m'être trompé une fois dans une fromagerie du village où on m'a demandé si je voulais du laguiole ou du Cantal. C'est ce jour-là que j'ai découvert la différence. Un peu plus dans le centre du département, on peut déguster une estofinade qui se prépare à base de poisson, le stofiche que l'on fait tremper dans l'eau pendant une semaine en changeant cette eau tous les jours. Puis, on fait cuire ce poisson avec des pommes de terre. On trouvera ce plat dans le bassin de Decazeville, mais surtout à Almont-le-Juny, qui est la capitale du stofiche. C'est un village que je connais très bien, où j'ai des attaches familiales, car ma maman est née sur cette commune. Il y a quelques années, quand on faisait un repas dans l'un des restaurants du village, je savais d'avance que je sortirais de table le ventre bien lourd. Et pour cause, les repas commençaient toujours avec un potage cuit avec la poule farcie qui suit. Ensuite, le stofiche, bien sûr, une volaille rôtie avec un légume, le fromage et comme dessert, c'était bien souvent une crème anglaise. Alors forcément, après avoir mangé tous ces mets, on pouvait aller se promener dans le village pour digérir ou faire une randonnée. Ça m'est arrivé parfois avec des randonneurs de Grand Vavre. Pas l'abbaye, celui du Sud Aveyron, mais Grand Vavre à côté de Conques ou près d'Almont-le-Juny. Les tripous, eux, viennent de Nocelles et qui sont souvent servis au petit déjeuner pour les fêtes de village. L'été, parfois, pendant les animations sportives, où j'ai d'ailleurs servi quelquefois sur le terrain de quilles à l'occasion du challenge du Mansois. Côté sucré, le soleil de Marciac ou de Belcastel est un gâteau très renommé dans le coin. On en trouve aux vins d'honneur organisés par les mairies. Bien sûr, il ne faut pas oublier le gâteau à la broche et la foisse de Clairvaux, dont la recette est jalousement gardée secrète par les pâtissiers qui fabriquent ces gâteaux, accompagnés au dessert avec une salade de fruits ou au goûter avec un café. Je n'oublie pas le Sud-Aveyron et son roquefort qui se tartine sur le pain, comme me l'a dit une petite fille un jour où je mangeais une tranche sans pain. L'Aveyron a aussi des boissons alcoolisées ou non, comme par exemple le Côte de Millau, le vin d'Estaing, le Marciac que l'on appelle aussi Mansois, que je connais bien pour l'avoir goûté. Normal pour quelqu'un qui est natif du village. Le ratafia, la limonade et la bière de Saint-Geniès-d'Ols font aussi partie de la gastronomie du département. Et pour finir, allons faire un petit tour à l'abbaye de Bonneval pour déguster son chocolat qui, rien qu'en y pensant, me donne l'eau à la bouche. En Aveyron, même quand il y en a trop, c'est jamais assez.
C'était la chronique de Roseline, dédiée à la gastronomie aveyronnaise.
Avant de terminer cette émission, place à la fiction, La Porte du Passé, épisode 2.
Quand Léonie apprend que sa mère est enfermée à l'asile, elle ne sait pas quoi faire. Pendant 8 ans, en famille d'accueil, elle attend et ne supporte plus de voir sa famille qu'une seule fois par mois. Un jour, elle décide de se retrousser les manches.
Dis donc Léonie, tu crois pas que tu devrais trouver un boulot pour cet été ? Tu vas quand même pas rester comme une gamine devant la télé jour et nuit ?
Dit son beau-père méchamment.
Alors déjà, tu n'es pas mon père ? Et ensuite, au moins, je passe pas mon temps à traîner et trafiquer dehors.
Me parle pas sur ce ton-là, tu vas t'en prendre une.
Ah ouais, vas-y, colle-moi-en une. Moi, je me casse. Ici, c'est la maison de Satan.
Cria Léonie.
Te préviens, si tu passes cette porte, c'est même plus la peine de revenir.
Je m'en fous de cette baraque. D'ailleurs, j'en ai jamais rien eu à foutre de toi. Je vais à la fac et je reste avec mon copain.
À la revoyure, alors. Bon débarras.
Léonie quitte la maison furieuse et retrouve à l'université Billy, son petit ami.
Salut Billy.
Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça a pas l'air d'aller.
Non, rien de grave. Je me disais, est-ce que je pourrais venir quelque temps chez toi ? Juste le temps de me trouver un appart.
Pas de problème. Tu sais bien que mon père a le cœur sur la main.
Ça dépend des fois, hein.
Ouais, d'accord. C'est vrai que des fois, il a des crises de colère. C'est son côté déprimant depuis que ma mère est partie.
La journée se termine, Léonie rentre avec Billy.
Billy, combien de fois je dois te dire de ne plus ramener les filles à la maison ?
C'est rien, papa, c'est juste Léonie.
Ah, excuse-moi, je t'avais pas reconnu de loin.
Pendant le dîner, la discussion s'engage.
Dis-moi, Léonie, qu'est-ce qui s'est passé avec ton beau-père ?
J'ai pas vraiment envie d'en parler, je préfère ne pas trop y penser.
Oui, bien sûr, je comprends.
Par contre, vous savez, au sujet de ma mère ? Je vous avais parlé de finir le mur de son jardin.
Et comment comptes-tu t'y prendre ?
Bah, tu sais, Billy, le tas de cailloux derrière chez elle.
Ouais, je vois, ouais.
On pourrait peut-être aller chercher des pierres là-bas. Enfin, si vous avez le temps.
Oui, ça peut le faire. Tu sais bien que je peux rien te refuser.
Dès le lendemain, Léonie, Billy et son père commencent à s'activer pour dégager l'entrée du tunnel. Après plusieurs jours, ils ont déjà entassé une montagne de pierres devant la maison de la mère de Léonie. Billy et son père commencent à s'interroger.
Dis donc, Léonie, qu'est-ce qu'il y a derrière ces pierres que tu nous as demandé d'enlever ?
Je sais pas vraiment, peut-être une grotte.
Répond-elle naïvement. Mais Billy n'est pas convaincu par son ton de voix. Il profite d'un moment de pause pour retrouver sa petite amie dans un coin, à proximité du tunnel.
Léonie, tu ne me dis pas la vérité. Dis-moi de quoi il s'agit, sinon je dis à mon père que tu es folle.
Tu me traites déjà comme une folle alors que je n'ai rien dit. Mais puisque tu insistes, voilà. Derrière ce tas de cailloux, il y a un tunnel. Il permet de voyager dans le temps. Grâce à lui, je pourrai réparer mon destin et celui des gens qui en ont besoin.
Soudain, Léonie se lève et se dirige vers le tas de gravats. Elle distingue un passage et l'entrée du tunnel. Ça y est, elle a réussi. Elle décide de commencer à traverser le passage, mais se retourne et voit Billy qui reste comme figé sur place.
Pourquoi tu ne viens pas ?
Pourquoi je viendrais ? Après tout, ta mère est folle et en hôpital psychiatrique. Tu lui ressembles un peu. Moi, je suis pas fou.
Elle n'y est pour rien dans ce qui lui arrive. Ce sont eux qui l'ont enfermé de force. Alors maintenant, il n'y a plus que moi pour arranger les choses.
Bon, disons que tu aies raison. Mais mon père, comment on fait ?
Il n'en saura rien, ne t'inquiète pas.
Léonie et Billy s'avancent dans le tunnel. Sur le côté, une pelle et une pioche. Peut-être des armes, au cas où. Au dernier moment, alors qu'elle se retourne pour vérifier que personne ne les suit, Léonie entend du bruit derrière un buisson. Qu'est-ce que cela pouvait être ?
Rendez-vous pour la suite de l'histoire dans la prochaine émission.
Merci à Wendy, Pierre, Sébastien et Grégoire d'avoir participé pour l'enregistrement des voix.
Et merci à Philippe à la technique.
C'était tous les matins, je me lève.
Une émission de travailleurs de l'ESAT de Belmont-sur-Anse.
Une coproduction de l'APCA
et de Radio Centrafrique.
Au revoir
et à bientôt.